autour de nous.
Donc, on passe à la partie hôpital général. Moi, je vais vous transmettre donc ce qu'il en est de l'histoire brève du comité d'éthique du centre hospitalier des Narbonne. En petite lettre, Adolphe Charmont, puisque c'est aussi son nom. Vous présentez rapidement l'établissement qui ne connaît pas le centre hospitalier, qui est un hôpital général de taille moyenne, 400 lits et places, 530 professionnels, 45 médecins, 350 soignants. 120 lits de psychiatrie sur ces 400 lits, et le reste, service de médecine. À part un service de diabéto et d'alcoolologie, essentiellement des services de gériatrie, court, moyen, un peu plus important, et long séjour, important, un peu plus long de vie. Ces services de soins sont regroupés en deux pôles, psychiatrie d'une part, deux secteurs adultes, le secteur de psychiatrie générale et un intersecteur un peu plus juvénile, et l'autre secteur, le secteur de médecine, le pôle de médecine. Un troisième pôle, dit d'accompagnement des activités thérapeutiques, qui regroupe les services de direction administrative et technique. L'hôpital lui-même est à toute proximité d'une polyclinique PSPH de 200 lits avec des spécialités complémentaires en médecine et en chirurgie et un gros service d'urgence avec une coopération étroite, notamment au niveau du service d'urgence. Comité d'éthique, on pourrait dater sa gestation à avril 2010, qui a été la date de constitution et de première réunion de ce qui s'est appelé pendant quelque temps un comité d'éthique, une dizaine de personnes dont la composition a été remaniée lors d'une réunion d'un comité plus large un mois plus tard et qui se voulait équitable entre les représentants du pôle de médecine et du pôle de psychiatrie et les professionnels qui participaient, donc très vite, médecins, psychologues, infirmiers, aides-soignants et cadres ont participé, ainsi qu'une des personnalités rattachées au service de direction. Le rôle de ce comité restreint était de penser la mise en place, les missions et la structuration d'un comité d'éthique au sein de l'hôpital. C'est la CME qui en avait soulevé l'initiative, déjà un an plus tôt, et qui était directement à l'origine de cette mise en route. D'ailleurs, les premiers membres constitutifs de ce comité étaient issus de la CME. Donc, modifié beaucoup plus loin. En amont et dans la conscience collective de l'établissement, il était fait référence au texte. C'était l'époque de santé publique, la loi de mars 2002, le manuel de certification qui semblait originer, inciter à la création de ce comité. Notre directeur n'y était pas opposé, loin de là, il était même intéressé, il avait participé à la mise en place d'un comité éthique à Roubaix. Par ailleurs, son arrivée succédait à une période institutionnelle difficile, où l'établissement dans son ensemble avait été fortement ébranlé, et les liens interpersonnels mis à mal. Du côté des soignants, les dernières années avaient été dominées, pas comme partout, mais peut-être de façon particulièrement sollicitante, m'a-t-il semblé, dans un hôpital général, une bataille d'une autre, peut-être qu'on considère que c'est toujours plus difficile chez soi que chez les autres, en tout cas, dominé par la nécessaire intégration de la loi de mars 2002, la mobilisation aux diverses étapes de l'accréditation et certification, la mise en place des projets de la nouvelle gouvernance, le développement des procédures et protocoles dans de multiples domaines de la pratique, la T2A, enfin, puis encore d'autres termes de la modernité qui ont leur intérêt dans ce que ça génère, mais qui ont entraîné aussi des nouvelles modalités de fonctionnement, une dispersion des présences, notamment dans la transversalité de l'établissement, mais au dépend peut-être d'une présence plus organisée au sein de nos services. Un recentrage et une information mutuelle par l'écrit, possiblement au dépend de la parole. Et j'insiste sur ce point car, après coup et dans nos réflexions, il nous a semblé que la mise en place d'un comité d'éthique a rencontré une attente d'un lieu ou remettre en débat et en question des enjeux qui ne trouvaient plus si facilement d'adresse dans les services ou l'établissement en tant que tel, ou qui ne trouvaient pas de tiers pour en attester. Ce comité restreint va se réunir 4 fois pour produire un règlement intérieur et le présenter à un groupe d'une 30 ou 40 personnes, je pense, qui était constituer des personnes volontaires à s'inscrire dans un comité d'éthique et cela signé en octobre 2010, donc le démarrage et l'existence du comité d'éthique proprement dit. Vont s'y adjoindre au personnel de l'établissement un philosophe, un docteur en droit de la santé, un représentant des usagers, une pharmacienne et deux praticiens hospitaliers retraités. Je fais partie des deux. La constitution initiale s'est faite sur la base du volontariat, je dirais, et les deux pôles de médecine et de psychiatrie sont représentés de façon tout à fait équivalente, de même que les catégories de professionnels qui les composent. Les missions et compétences sont définies par le règlement intérieur. Je ne vais pas m'y attarder, je pense que c'est assez classique, je vous cite rapidement. Le comité d'éthique contribue par ses avis et propositions au fonctionnement éthique de la structure hospitalière, à l'amélioration de la prise en charge des usagers et leurs proches. C'est une structure consultative et non décisionnaire, ayant pour objectif d'identifier les problèmes de nature éthique rencontrés dans l'établissement, d'étudier les cas particuliers par une écoute diligente de la situation exposée, en menant une réflexion à distance, suivie d'une transmission d'avis éclairée, sans se substituer aux professionnels ou groupes décideurs. Promouvoir dans un premier temps au sein de l'établissement des réflexions et recommandations lors de rencontres et d'échanges verbaux, favoriser la réflexion dans le sens des soins. Pour assurer le travail, le comité commence par élire son président, de façon indépendante et interne lui-même, et constitue autour de lui un bureau de 11 membres, qui représente les trois poules dans leur constitution, dans leur composition. Charge à ce bureau de diligenter l'analyse des saisines adressées au président, favoriser la constitution d'une cellule de travail propice à la prise en compte des demandes singulières, mettre en forme les réflexions ainsi produites et en assurer la transmission au comité d'éthique réuni dans son ensemble. Les 30 ou 40 personnes dont je parlais tout à l'heure, j'ai presque atteint l'individu, donc je vais vite, ceci donc deux fois par an. Le bureau lui se réunit à peu près une fois par mois, parfois plus, en fonction des demandes qui lui sont adressées. Toutes les réunions, aussi bien comité plénier que bureau, donnent lieu à compte-rendu. Par contre, les échanges qui nécessitent souvent plusieurs rencontres avec les équipes ou les personnes demandeuses, une rencontre avec le comité, ne donnent lieu qu'à, enfin, ne donnent lieu à aucune restitution hormis sur le mode oral. Ce n'est pas par écrit, c'est un choix qui était fait au départ et nous n'avons jamais éprouvé besoin de modifier. Il va soit que les échanges sont libres, contradictoires et garantis confidentialité. Il est intéressant de voir qu'au niveau clinique, les situations qui nous ont mis au travail, c'est essentiellement des situations cliniques, qui ont été rapportées. Pour la médecine, démarrer dans le fait d'un handicap cognitif ou de troubles psychopathologiques particuliers et souvent importants chez les cas rapportés, et en psychiatrie, dans la survenue d'affections somatiques lourdes, que je pense. Un cancer chez un patient schizophrène. Et les échanges et débats autour de ces situations cliniques ont toujours été passionnants et d'autant plus riches qu'ils associent les soignants des deux pôles, médecine et psychiatrie. Il est certain que la mise en place des pôles avait auparavant favorisé un point de rupture, enfin en tout cas un tournant dans la vie de l'établissement, avec une certaine isolation des deux pôles, si ce n'est un clivage, où on se rencontrait beaucoup moins. Et le comité d'éthique et sa mise en place ont été l'occasion de travailler ensemble autour de la même table pour rencontrer, à notre bonne surprise, les mêmes questions et pour se rendre compte que nos champs respectifs n'avaient pas le privilège de l'exception. Au contraire, et sans ambiguïté, je considère une bonne nouvelle, la pratique psychiatrique appartient bien au domaine de la médecine et la médecine somatique prend en compte la part subjective et unique de chaque patient. Seule la façon de théoriser chaque cas peut différer. Certains thèmes se sont dégagés de ces rencontres et ont mis au travail en aval le bureau ou les personnes intéressées à prolonger. Je vous en cite quelques-unes. Quelle autonomie de décision chez une personne présentant un délit de sa maladie? Comment une équipe soignante peut se trouver à subjectiver une maladie grave, cancer par exemple, ou un événement de vie touchant à l'intime, grossesse pour un ou une patiente incapable de le concevoir et le temps de sa propre élaboration peut-être délirante. Le refus de traitement et l'autonomie de la personne, les limites de l'information et notamment du partage du droit du patient de ne pas savoir. En l'absence de directive anticipée, qui peut représenter un patient dans l'incapacité de donner accord à des soins médicalement indispensables et en cas de désaccord médecin-famille? Quelle valeur de représentation est dévolue à un collège médical pour porter une décision de soins invasifs chez un patient dans l'incapacité de donner valablement son consentement? Et au passage, l'élaboration d'une définition de soins invasifs? Quelle aide à la décision peut-on apporter par avance à un collègue médecin sommé d'agir seul et dans l'urgence? Décision qui soit respectueuse du droit et de la parole du patient concernant l'abstention d'un geste salvateur, mais qu'il a refusé d'authentifier par un écrit valant directive anticipée. Autant de questions, autant d'entente qui rappellent que cet hôpital accueille une catégorie de patients marquée inévitablement ou passagèrement par la fragilité et la difficulté à consentir librement ou valablement aux soins nécessités dans leur état. Je vous rappelle, aujourd'hui, que la saisine concerne les professionnels de l'établissement et, à l'heure d'aujourd'hui, sans préjugé d'avenir, ça n'est pas fait des patients ou des familles. Je rappelle que les familles sont représentées au comité d'éthique. Une question portée sur les difficultés particulières ou les limites, nous n'en avons pas rencontré, et si ce n'est peut-être... dans ce qui avait pu être renvoyé, le sentiment que certains ont pu avoir que le comité, dans ce qu'il accueillait comme demande, venait empiéter sur ce qui aurait pu se reprendre ou avait déjà été repris dans les services, hein, notamment de la part de soignants qui avaient fait une démarche individuelle. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder plus si vous me rappelez à ce point l'heure. Voilà.
Merci docteur. De toute façon, c'était important que vous fassiez un tour d'horizon d'un lieu qui ne ressemble pas tout à fait au lieu qu'on venait de parcourir. Donc merci d'avoir pris ce temps-là et merci de l'avoir respecté.